en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Madame la secrétaire perpétuelle de l'économie de l'Académie française, Messieurs les hauts représentants de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Académie française et de l'Institut d'ailleurs, bon, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici. Alors, vous avez évoqué les liens familiaux, c'est vrai, c'est un endroit qui, pour moi, est peuplé d'un certain nombre d'images et de souvenirs. Et c'est aussi un endroit que nous traversons une fois par semaine, en entrant par cette porte et en allant jusque-là, au triple galop que nous permet notre âge. Nous passons à 3h moins 5 pour siéger dans la salle voisine où nous travaillons intensément à la rédaction du dictionnaire de la langue française. Pour ma part, je ne suis pas un grammairien de très haut niveau. Je me contente de chercher, madame, à limiter le nombre d'exemples et à garder la pureté de notre superbe langue. Alors, je voudrais m'excuser, parce que vous avez fait une introduction très soignée, très bien rédigée. Je trouve d'ailleurs que votre académie est à la fois morale et politique, parce que son travail est très soigneux, en réalité. Vous faites attention aux détails et vous dites des choses très exactes. Or, je ne traiterai pas le sujet que vous me proposez. Plus exactement, je le traiterai sous un autre angle. Vous avez dit dans votre texte que le sujet, c'était le président de la République devant l'opinion publique. Il m'a paru trop simplifié et trop proche des vérités approximatives qu'aiment à se répéter les membres du milieu politique. En effet, quelle opinion publique ? Celle des conversations ? Celle de la presse écrite ou audiovisuelle ? Ou celle des sondages ? Et pourquoi se limiter au seul président de la République dans un univers où le pouvoir est exercé par une grande diversité d'hommes et maintenant de femmes, qui en occupent les nominations, les premiers ministres, les parlementaires, les autorités régionales et locales. Donc je m'échappe de votre titre.
Très bien.
Bon, vous pouvez toujours couper le micro, parce que c'est un plaisir. Et enfin, j'évoquerai rapidement le rôle de ce qu'on appelle les réseaux sociaux dans la formation de l'opinion publique. Car ce rôle est déjà très important, assez mal connu, et il est appelé à se développer d'une manière telle que vous devriez reprendre ce même exercice d'ici 10 ans en 2028, et je serai à votre disposition pour y participer. Alors, mon sujet, moi, que j'ai retenu aujourd'hui, est un peu différent. Je l'intitulerai « L'opinion publique et les pouvoirs ». Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'opinion publique ? Alors, je sais que vous y travaillez depuis le début de l'année, que vous avez tenu de très nombreuses réunions de grands spécialistes des différentes branches. Aussi, je le mentionnerai que les traits qui concernent mon sujet. C'est un mot bizarre, le mot opinion publique. D'abord, l'opinion n'est pas une posture scientifique, née d'un raisonnement rigoureux, comme le sont les idées selon Platon. C'est l'expression d'une préférence, d'une tendance. C'est donc quelque chose déjà de fragile et de variable. D'après le dictionnaire Larousse, je m'excuse, le secrétaire perpétuel, la définition est la suivante. C'est une manière de voir ou de juger particulière à une personne ou à un groupe social en matière de morale, religieuse ou politique. C'est donc une manière de voir ou de juger. Et donc, par nature, c'est assez imprécis, assez indécis. Public signifie qu'il s'agit d'un groupe, parfois même d'une collectivité tout entière, ou même éventuellement d'une nation. Comme toutes les éléments de ce type, on cherche à mesurer sa dimension. Et il y a une activité permanente, un grand nombre de spécialistes et d'organismes pour tenter de la situer. Autrefois, je me souviens, au fond, la seule question était la question de savoir si l'opinion publique dépassait ou était inférieure à la majorité. Et si on avait la majorité, pourquoi ou contre soi. Autrement dit, le seul chiffre qui était important en matière d'opinion publique, c'était 50%. Notez d'ailleurs que si c'était ce même chiffre qui était utilisé à l'heure actuelle, on serait très éloigné des références antérieures. Et que l'opinion publique des années 1960-1970 se situait très au-dessus de l'opinion publique qu'on mesure actuellement. Avec le développement des instituts de sondage, qui sont de plus en plus nombreux, nous avons vu naître le premier, puis le deuxième, puis le troisième, et il y en a beaucoup d'autres, on recherche une évolution beaucoup plus précise. Et celle-ci reste fragile, comme l'expérience récente des élections italiennes nous en a apporté la preuve. Voilà un grand pays latin, démocratique, avec un système éducatif développé, observé par tous les observateurs de la planète, et qui donne un résultat électoral très éloigné de ce qui avait été annoncé. Ce qui prouve simplement qu'en Italie, l'opinion publique est changeante, comme je vous en donnerai tout à l'heure deux exemples pour la France. Alors chacun en parle, et vous-même, mesdames et messieurs, vous en parlez dans vos conversations. Quelle est-elle? Ça n'est pas la conclusion d'un raisonnement rationnel et scientifique, comme le souhaitait Platon sur l'Agora au 5e siècle avant notre ère. Vous savez qu'il distinguait en fait les idées et l'opinion. C'est à propos de cette opinion publique changeante que je vais m'efforcer de répondre aux deux questions que vous me posez. L'opinion publique connaît-elle le chef de l'État mieux que celui-ci ne la connaît? Et l'opinion publique influence-t-elle le chef de l'État plus que lui-même ne l'oriente? D'abord, les dirigeants sont-ils bien informés de l'opinion publique? Quand vous êtes élu à une responsabilité importante, et beaucoup de vous ont fait l'expérience, la pensée médiatique exprime que vous serez désormais coupé du monde. Les bruits de la rue ne vous parviendraient plus, les conversations vous ignoreraient et vous n'entendriez que vos conseillers empressés à vous plaire. Et c'est cette présentation classique qui a lieu lors des grandes élections, notamment des élections présidentielles. On pense qu'à partir de cet événement, vous êtes coupé de l'opinion publique. Or, c'est faux, et c'est même le contraire. C'est donc assez curieux de voir une opinion très largement répandue et qui est heureusement éloignée de la réalité. Car le chef d'État croule sous les informations. Il dispose des radios, des télévisions, des revues de presse, de tous les sondages, et aujourd'hui, des résumés de ce qui se dit sur les tablettes et les téléphones portables. Il reçoit à longueur de journée les hommes politiques, les dirigeants d'entreprise, les syndicalistes, tous désireux de l'informer de l'évolution de l'opinion de leur mandant. C'est la multiplicité de ces canaux d'information qui permet au chef de l'État d'en faire la synthèse et d'évaluer l'état de l'opinion publique. Les plus anciens d'entre vous se souviennent peut-être qu'avec mon épouse, que je cherche des yeux d'ailleurs, vous étiez caché par la lampe. Avec mon épouse, il nous arrivait d'aller chaque mois dîner chez les Français. C'était des conversations qui nous étaient très précieuses parce qu'elles étaient vraies, authentique et différente. Les médias étaient ulcérés d'être court-circuités. Et ils allaient le lendemain se les intéresser pour leur demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Cette question évoquait chez moi le souvenir d'une anecdote que m'avait raconté le général de Gaulle lorsqu'il était président de la République, et qu'il a réuni à l'Élysée le premier conseil de la communauté franco-africaine qu'il venait de créer. À la fin de la réunion, les membres sont sortis sur le perron de l'Élysée, le général de Gaulle les a accompagnés, il est rentré dans l'antichambre, et il m'a dit la chose suivante, « Vous savez ce que les journalistes demandent ?» Eh bien, ils demandent tous, « Qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Les médias étaient ulcérés d'être court-circuités. Alors, ils avaient d'ailleurs un flair extraordinaire, parce qu'ils trouvaient les endroits où nous étions allés, que ce soit les radios, les télévisions naissantes, et c'est tout juste, ils n'exigeaient pas que ces contacts directs entre les citoyens et le chef de l'État soient interdits par la Constitution. Mon regret est qu'il ne nous ait pas été possible d'honorer les dizaines de milliers d'invitations qui nous étaient parvenues. Au total, sur ce point, un chef d'État a tous les moyens de connaître l'opinion de ses concitoyens. Il est probablement le mieux informé de l'opinion publique. Et c'est ainsi que j'ai pu observer, à partir du mois de février 1981, que sous la pression perfide de mes rivaux, ils se détachaient de moi. La réciproque est-elle vraie? L'opinion publique connaît-elle bien ses chefs d'État? La réponse est plutôt négative. Nous connaissons mal les autres, seraient-ils nos amis? Cette constatation socratique suffit à nous convaincre que nous ne connaissons jamais que de manière imparfaite ceux appelés à nous diriger. Et je vous donnerai l'exemple le plus éclatant qui a été donné par le général de Gaulle en mai 1968 dans des circonstances tout à fait extraordinaires. L'émeute étudiante qui s'était développée autour de la Sorbonne et de l'Odéon et qui parcourait en cortège le boulevard Raspail. Cette émeute étudiante ignorait délibérément la fonction exercée par le général de Gaulle. Lorsque celui-ci a, suivant le vocabulaire de l'époque, disparu de l'Élysée, la surprise a été complète et l'opinion publique a tourné son intérêt tout de suite vers la formation d'un gouvernement d'opposition, ignorant le général de Gaulle, parti à l'étranger. Or, il a suffi que le général de Gaulle rentre à Paris, prononce à la radio une allocution de quelques minutes, sur un texte rédigé d'ailleurs à la main par lui-même, pour qu'une foule innombrable se rassemble le long des Champs-Élysées pour lui apporter son soutien. Où était alors l'opinion publique? Mais laissons ces manœuvres et revenons à notre sujet, qui est ma deuxième question. C'est qui influence qui? L'opinion publique influence-t-elle davantage le chef d'État plus que celui-ci ne l'a conduit? La manipulation de l'opinion est pratiquée avec beaucoup d'adresse et d'efficacité dans nos démocraties, et même à un point extrême, si on en juge par l'exemple américain actuel. Mais revenons à l'opinion publique qui est l'objet de notre attention. Influence-t-elle le chef de l'État? Évidemment oui. Comment serait-il autrement, puisque nous sommes en démocratie? La manière dont celle-ci fonctionne a pour objectif et pour résultat de canaliser l'expression de cette opinion. L'opinion publique est venue à mon secours pendant l'été 1974, lorsque je m'efforçais de faire approuver par le Parlement une loi libéralisant l'interruption volontaire de grossesse. Une partie de ma majorité était réticente pour l'approuver et ne désirait pas voter le texte. Mais l'opinion publique lui était favorable. Et elle a fait pression sur les parlementaires de l'opposition pour qu'ils se joignent à la majorité pour voter la loi. Et celle-ci a été adoptée. C'est donc la preuve de l'existence et de l'efficacité de l'opinion publique. De même, j'ai fait appel à l'opinion publique lors des élections législatives de mars 1978, dont beaucoup d'entre vous, naturellement, n'ont pas gardé le souvenir. J'avais exprimé mon désir, que j'ai gardé depuis d'ailleurs, de faire de la France une démocratie forte et paisible. C'était une ambition audacieuse. Je n'avais jamais modifié pendant 7 ans une date d'élection, ni, comme on l'a fait trop souvent depuis, une loi électorale. Notons, passons, qu'il est rare que les Françaises et les Français soient appelés à voter 2 fois de suite avec la même loi. Et si vous prenez la liste des lois différentes qui ont été utilisées depuis la Libération, vous verrez qu'il y en a autant que d'élections moins une. Or, il était important pour moi de gagner cette élection. Et tous les pronostics, tous les sondages d'opinion, tous les éditoriaux de la grande presse la mieux informée me donnaient perdant. La presse décrivait la situation qu'allait créer inévitablement la victoire de l'opposition, et elle indiquait les choix que l'opposition devrait faire pour continuer à gérer le pays après mon échec. J'ai décidé un mois auparavant, au mois de février, de faire appel à l'opinion publique en lui demandant, et c'est l'expression dont je me suis servi, de faire le bon choix pour la France. J'ai prononcé ce discours dans un département alpin ou subalpin, dans une très jolie petite ville, et mon procédé a été de décrire ce qui m'arriverait en cas de succès de l'opposition. Au lieu de décrire ce que je souhaitais en cas de succès, j'indiquais que je continuerais d'exercer ma fonction, mais que je n'occuperais plus l'Élysée. J'y viendrais une fois par semaine pour présider le Conseil des ministres tout en résidant à Rambouillet. Et je veillerai seulement à ce que les tenants du programme commun ne dépassent pas les limites de leur programme. Et en cas d'excès, je dissoudrai l'Assemblée nationale comme la Constitution m'en réserve le droit. Cette présentation par le vide, qui était inhabituelle, c'est-à-dire la description de ce qui arriverait, deviendrait au perdant de l'élection, a convaincu l'opinion publique. Et, à la surprise générale, nous avons gagné les élections. Je note au passage, je suis encore dans mes délais, monsieur le président.
Oh, tout à fait.
Vous croyez ?
Oui.
S'il y a une lassitude.
Il y en a aucune.
On fait l'écho et puis on commencera la
discussion.
Alors, je note au passage, parce que c'est quand même quelque chose d'assez évident, mais qui n'est pas répété, qu'aucun système électoral ne permet de dégager à la fois des majorités stables et une représentation fidèle de l'électorat. Il n'y a aucun système politique pour le faire. Parce que l'opinion bougeant, une loi qui la représente fidèlement, n'est pas capable d'établir en même temps des majorités stables. Ce que le chef de l'État perçoit, par les divers relais de l'opinion publique, compte beaucoup dans ses décisions. Soit il les maintiendra, soit il les renoncera. Nous avons tous en mémoire les grandes manifestations, soit sur l'école privée, soit sur l'âge de la retraite, qui ont conduit le chef de l'État de l'époque à abandonner ses projets. L'opinion publique est parfois beaucoup plus puissante que le pouvoir central. Il est vrai que nous ne sommes plus ici dans le domaine de la raison pure. Le relèvement de l'âge de la retraite était un phénomène inévitable, lié à cet événement extraordinairement bénéfique qu'est l'allongement de la vie humaine. Inévitable, mais cependant déplaisant pour certains qui ont attisé le mécontentement d'une partie de l'opinion publique et qui ont conduit certains responsables politiques à prendre la décision inverse, c'est-à-dire à ramener à 60 ans l'âge de la retraite alors qu'il était à 65 ans sous mon mandat. On voit que la frontière est vite franchie entre la démocratie et la démagogie. Nous avons tous en tête des annonces qui ont permis à leurs auteurs de parvenir au pouvoir et qui, traduites dans les faits, ont détruit même jusqu'à maintenant la compétitivité de certains secteurs de notre économie qui ont fini par disparaître. Je ne peux m'empêcher de me souvenir d'une conversation avec André Bergeron, leader syndical, très aimable et sympathique, quelques jours avant l'élection présidentielle de 1981. Il avait demandé à venir me voir pour me dire ceci. Annoncez une cinquième semaine de congés payés et je vous garantis que vous serez réélu. Je n'ai pas hésité une seconde. Et vous savez ce qui est arrivé. Car l'opinion publique peut se tromper pour peu qu'on sache la flatter. Elle est peu ou pas sensible à l'intérêt général à long terme. D'ailleurs, un phénomène très curieux que vous avez sûrement analysé dans les travaux de votre académie. Or, cela doit être précisément la première préoccupation d'un chef d'État, l'intérêt général à long terme. Par construction, les points de vue de l'opinion publique et des chefs d'État dignes de cette fonction sont donc par nature contradictoires. Il s'ensuit que lorsque ce chef de l'État est convaincu qu'en réformant, il assure un meilleur avenir à la nation, son devoir est de faire une manipulation de l'opinion publique au cas où celle-ci serait réticente. Et c'est pour cette raison que nous devons remercier le général de Gaulle de nous avoir dissimulé si longtemps sa pensée sur l'Algérie. J'étais au gouvernement et je le voyais chaque semaine. Comme militaire de carrière, il a souffert plus que tout autre de ce qui s'est passé. Mais il a compris que dans ce monde en pleine évolution, l'avenir à long terme de la France serait durablement handicapé si nous ne mettions pas fin à ce conflit. L'opinion publique était profondément divisée. Il a manœuvré en tacticien qu'il était, et heureusement pour nous. Notre pays n'est plus, depuis les années 70, confronté à ces situations extrêmes. Je souhaite qu'on ne les retrouve pas. C'est pourquoi, Monsieur le Président, pour répondre à la question que vous posez, je n'ai pas eu à manipuler l'opinion publique, ni non plus à l'ignorer. Il faut évidemment distinguer la manipulation de l'information et de la mise en garde. C'est ce que j'ai fait dans mon discours de Verdun sur le Doubs, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, où j'ai averti l'opinion publique qu'au cas où le programme commun l'emporterait, je n'avais pas le pouvoir de m'opposer à sa mise en œuvre. Nous avons gagné ces élections. Personne ne peut dire dans quelle mesure mon discours a influencé l'opinion publique. Mais en le faisant, je ne la manipulais pas. C'était même le contraire. Je devais lui dire la vérité, la simple et forte vérité. C'est sans doute pour cela que j'ai été entendu. Je le répète, l'information n'est pas la manipulation. On a tendance, avec notre esprit critique, à confondre l'une et l'autre. Ce sont deux attitudes distinctes. L'information moderne de l'opinion publique doit être directe et concrète. Au ministère des Finances, j'ai cherché la manière de commenter des résultats statistiques qui autrement auraient été incompréhensibles pour l'opinion publique. Et en y pensant à nouveau, je m'émerveille du résultat. Que avec les appareils audiovisuels de l'époque, qui n'étaient pas d'une luminosité parfaite, j'ai pu présenter toutes les semaines des tableaux statistiques indiquant l'évolution du déficit public de la France. Et que l'opinion publique suivait cette démonstration et en était impressionné. C'est quelque chose qu'on a aujourd'hui difficulté à imaginer et qu'on souhaiterait pouvoir reprendre. L'information de l'opinion publique doit donc être directe et complète. Par la suite, en écoutant les conseils des observateurs, j'ai pris très consciemment un certain nombre de décisions qui, de l'avis des meilleurs politologues, devait empêcher ma réélection. La liste est longue. L'interruption volontaire de grossesse, le vote à 18 ans, la taxation des plus-values boursières, la protection du littoral, qui lésait les constructeurs, l'interdiction des tours à Paris, la limitation de vitesse sur les autoroutes, ce qui heurtait les automobilistes et les motards, vaste relais d'opinion. Nous sommes ici au cœur de notre sujet. En 1974, que pensait l'opinion publique de l'interruption volontaire de grossesse ou du vote à 18 ans? Elle était divisée. ou assez indifférente. Les hommes politiques se gardaient de prendre position. Ce que me disaient mes amis et aussi les meilleurs politologues était d'un grand bon sens. Les pesanteurs sociologiques sont très fortes. Quelles que soient les circonstances, les électeurs continuent majoritairement de voter comme ils l'ont toujours fait. Les électeurs oublient vite les auteurs des réformes qui leur paraissent opportunes et qui leur sont favorables, mais ils ne pardonnent jamais à ceux qui ont réformé contre leurs intérêts ou leurs croyances. De telle sorte que le chef de l'État qui réforme bénéficie à la rigueur de l'estime de la majorité politique, mais non de ses suffrages. Les politologues m'avaient prévenu que le vote de l'IVG me ferait perdre durablement 500 000 voix, et chacun sait qu'à 18 ans, puisqu'on a baissé l'âge du vote à 18 ans, on vote majoritairement pour la gauche révolutionnaire. Je savais tout cela. On me l'avait dit et répété, c'était l'opinion publique. Lorsqu'aujourd'hui encore, je me demande pourquoi j'ai mené à bien ces réformes, je n'ai pas d'autre réponse que celle-ci. Il fallait que je le fasse. Il m'était impossible d'agir autrement. J'avais le sentiment que je devais d'abord me préoccuper de l'intérêt général à moyen et à long terme. Aujourd'hui, j'ai la satisfaction de constater que presque personne, à part vous, ne se souvient de ce que j'ai réformé. C'est la preuve que l'opinion publique à assimiler ces changements au point de ne plus pouvoir les dater. Je vous remercie de votre approbation, Monsieur le Président, que j'aperçois à mes côtés. Nous devons souhaiter, espérer, croire que notre actuel chef de l'État saura s'en souvenir. Peut-être avez-vous ressenti en m'écoutant combien ces relations entre les opinions publiques et les chefs d'État avaient, comme dans les tragédies grecques, quelque chose de fatal. C'est que l'intérêt individuel immédiat qui déclenche le vote coïncide rarement avec l'intérêt général à long terme. Vient plus ou moins vite le moment de la séparation. Cette loi de nature s'est appliquée à toutes les nations. Churchill gagne la Grande Guerre mondiale, mais dans les jours qui suivent perd les élections nationales. La France regrette et respecte le général de Gaulle, mais il doit, par deux fois, abandonner le pouvoir. Examinons un instant la manière dont l'opinion publique et le chef d'État ont influencé la vie de notre pays depuis près de trois siècles. De 1789 jusqu'à la Grande Terreur, c'est l'opinion publique qui a dirigé. Puis de 1799 jusqu'à 1815, c'est un chef d'État qui gouverne comme empereur. Ensuite, de 1830 à peu près, jusqu'à 1848, comme l'écrit d'ailleurs notre distingué chancelier honoraire que j'aperçois devant moi, un certain équilibre est assuré entre l'opinion publique et le souverain. De 1848 à 1852, c'est à nouveau l'opinion publique qui règne. De 1852 à 1870, c'est à nouveau le chef de l'État, l'empereur Napoléon III. À partir de 1870, on recherche un équilibre acceptable par le chef de l'État. Et ceci dure jusqu'en 1914. Dans l'entre-deux-guerres, l'influence revient à l'opinion publique avec quelques postures destructrices, puis le silence s'établit sous l'occupation. Enfin, en 1945, l'opinion publique retrouve son influence qu'elle transmet au général de Gaulle, qui l'exerce pendant 11 ans. Ce pouvoir est alors assumé par les trois premiers présidents de la Ve République avant de revenir graduellement entre les mains de l'opinion publique. Ainsi, pendant les 229 dernières années, le pouvoir a été exercé en France par l'opinion publique toute seule pendant 12 ans. Par le chef d'État tout seul pendant 55 ans, et par un travail commun des deux pouvoirs pendant 162 ans, c'est-à-dire un peu plus de la moitié du temps. Ce long parcours montre combien en France la direction du pays est instable et combien courtes sont les périodes où soit le chef d'État, soit l'opinion publique dirige clairement le pays. Le temps passe. Peu à peu, l'opinion des citoyens devient celle des historiens. On peut espérer sereine et dépassionnée. Il suffit d'être patient. Chers amis, cher président, vous-même, vous faites preuve d'une grande patience en m'écoutant. Je vous en suis reconnaissant. Mais je voudrais, avant de conclure et d'ouvrir le débat avec vous, vous faire part d'une remarque. La manière dont vous avez formulé votre question, monsieur le président, tente à faire croire que le chef d'État et l'opinion publique sont dans des postures divergentes et souvent opposées. Or, dans l'époque contemporaine, largement modelée par les réseaux sociaux, apparaît une composante nouvelle, celle des lobbies. Il arrive qu'une attitude où les convictions du chef de l'État et de l'opinion convergent soit combattue plus ou moins insidieusement par les lobbies civiques ou médiatiques. Ces lobbies ne sont pas des partis politiques. Leurs dirigeants ne sont pas élus et recherchent souvent un certain anonymat. On va les voir se manifester dans la remise en ordre de notre vie publique que souhaite engager le chef de l'État. Ils vont chercher à s'opposer à la simplification de nos procédures parlementaires qui vise à rendre les lois plus simples et plus transparentes car ils vivent de l'exception et de l'obscurité. Ils ne représenteront pas l'opinion publique, même s'ils cherchent à le faire croire. Prenez garde au lobby dans les phases prochaines de la communication et de la globalisation. Je pourrais vous en parler à propos de la désastreuse politique des éoliennes qui dégrade le superbe paysage français dont j'avais réussi à protéger le littoral, comme maintenant, du fait de la loi qu'on a adoptée, le littoral italien est perdu, le littoral espagnol est perdu, le littoral français est sauvegardé. Or, il n'est plus possible d'envisager une démocratie sans lobby. Mais que devient la démocratie quand ces lobbies sont triomphants? C'est un sujet d'interrogation pour nous tous. Je le livre à votre réflexion, qui est précisément celle des sages, et je vous remercie de votre attention. Thank you.